Tout d'abord, bonjour, je me présente.
Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement votre parcours?
Des portraits?
Oui, au Tchad, bon, j'ai fait...
Je fais des études pour devenir éducateur sportif, dont j'ai obtenu une bourse par la...
Des portraits?
Quand on a la chance d'avoir une scolarité...
À ce jour, j'ai continué mon travail, j'ai travaillé...
On pensait que c'était bien pour moi, sans savoir réellement ce
très
que
très tôt, bah, ça m'a donné envie d'écrire.
Vous venez d'écouter Laurent Gabarou.
Nouradine Anne.
Et vous m'avez parlé tout à l'heure dans l'introduction du regroupement familial.
Bon, bah, j'ai mappé la foule de
Strasson. Portrait. Je suis athlète de haut niveau, donc j'ai fait deux podiums.
Clairement, oui, moi je pense que c'est une chance de pouvoir faire sa scolarité dans un environnement où il y a plus de mixité sociale.
Portrait. Quelle image aviez-vous de la France?
Mais l'image qu'on peut avoir...
Vous pouvez nous expliquer la différence entre l'hiver?
Juste, merci beaucoup d'avoir donné la chance de pouvoir en parler.
Je trouve ça génial.
Merci. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur les ondes du 88.4 si vous nous rejoignez bien sûr pour un nouveau numéro de Portrait. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que nous recevons Arnaud Delpoux. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes musicien, compositeur, metteur en scène, comédien. Vous êtes né en 1976 à Vierzon, dans le Cher. Vous n'y êtes pas resté longtemps, hein, puisque vous avez rapidement déménagé du côté d'Issoudun, dans l'Indre, où vous avez grandi. Une maman italienne, du sud de l'Italie, Dépouille.
C'est ça.
Qui est arrivée en France à 4-5 ans, c'est ça?
À peu près.
Avec toute la famille?
Toute la famille.
Et puis un papa qui, lui, était maître d'œuvre, voilà, qui faisait des plans, notamment pour les chantiers, les maisons, etc. etc.
C'est bien ça.
Alors, parlez-nous un petit peu de votre enfance, Arnaud Delpoux. On va commencer avec peut-être cette maman qui venait d'Italie. Question un petit peu bête, hein. Donc vous parlez parfaitement italien, Arnaud Delpoux.
Absolument pas, absolument pas. Je savais que ma mère venait d'Italie, qu'elle était italienne, elle est devenue française en épousant mon père, mais ma mère a très vite eu l'intention, elle a pris comme décision de devenir française avant tout, donc elle a tout fait pour s'intégrer, elle nous a jamais fait sentir comme qu'on était italien ou que l'on avait une double nationalité. Alors on peut le regretter ou pas, mais ce qui fait que j'ai grandi, je me suis jamais posé la question de savoir si j'étais italien ou quoi, ou une partie italienne. Je savais que mes grands-parents parlaient italien du côté de ma mère, la famille parlait italien, il y avait plein de familles en Italie, mais je sais pas, c'était normal, j'étais français, mais tout le reste de la famille était italien. Voilà, je me suis jamais posé plus de questions.
Donc pas de double nationalité?
Pas de double nationalité.
Dans les temps qui courent, c'est plutôt pratique, apparemment.
Voilà, mais ça ne m'aurait pas dérangé non plus.
Alors, elle a passé un CAP couture.
C'est ça.
Et puis, ensuite, elle est restée au foyer pour élever les trois garçons. Alors, c'est trois garçons. Hein.
Ouais, ouais.
Alors, quelle était l'ambiance à la maison avec les trois mecs?
Souvent, on s'identifie un peu comme les inconnus avec le film les trois frères.
Ouais.
Voilà, on est insupportables, on fait plein de conneries. Mais comme me dit ma mère, au bout d'un moment, vous êtes tellement con que vous me faites rire. Et je crois que c'est bien ça qui a résumé notre enfance. On était parfois insupportables, parfois très chiants, mais on rigolait quand même beaucoup. Et je crois que c'est ça qui était bien.
C'est ça qui était bien.
On s'est bien marré.
Alors, vous êtes le frère aîné?
Le frère aîné, oui.
Alors, on va parler du papa maintenant qu'on a parlé un petit peu de la maman. C'est lui qui vous a plus ou moins transmis la fibre artistique, puisque votre papa, alors, ça n'a rien à voir avec son métier. Il est maître d'œuvre, il était plutôt dans les chantiers, il travaillait de ses mains, il faisait des petits plans aussi pour faire la liaison entre le terrain et puis les commandes. Et il était guitariste également.
Oui, il participait à un groupe notamment qui s'appelait Paquita et les siens. Il jouait pratiquement tous les week-ends dans la région centre. Donc il reprenait tout le répertoire français, Piaf, Barbara, Brel, mais également Moustaki, Mouloudji, enfin bon, bref, toute la chanson française. Et il était également sonorisateur et régisseur lumière. Et tous les week-ends, il partait en vadrouille sur les terres de la région centre pour... pour faire ça, donc on a tout fait. Nous, on suivait, parfois en famille, pas tout le temps, mais on a tout fait. Des foires, des kermesses, des belles salles, des moins belles salles. Mmh. Enfin, un petit peu tout, quoi, même des écoles, enfin voilà.
Et qu'est-ce que vous avez gardé, vous, de cette période, justement, où votre papa, des fois, vous embarquait pour vous emmener...
De la contrainte, souvent, parce qu'il fallait attendre de longues heures avec des gens qu'on connaissait pas, donc je comprenais même pas tout ce qu'ils faisaient. C'était étrange, je m'ennuyais quand même beaucoup. Je m'ennuyais, c'était pas un peu rigolo, mais je m'ennuyais, je me rappelle attendre. Ouais. Mais j'observais, beaucoup observé beaucoup de gens, beaucoup de types de personnalités, les organisateurs, les participants, ceux qui tenaient les stands, des saucisses merguez, mais également les stands pour les enfants, j'ai beaucoup observé. J'étais extrêmement observateur. J'avais que ça à faire, tu vas dire.
Ouais. Alors, votre père a aussi un parcours assez atypique, hein, puisque on a dit qu'il était maître d'œuvre. Mm-hmm. Et puis, il est devenu animateur socioculturel. Il est également directeur d'une structure
maintenant,
culturelle.
Maintenant, oui. Et ben, disons qu'il a gravi les échelons. Il est devenu, il était animateur. Après, il est devenu chef de sa section, enfin directeur de sa section. Et maintenant, il est devenu directeur de la structure.
Voilà, donc directeur de la structure. Donc, vous étiez... encore plus baigné, j'ai envie de dire, dans la culture. Hein.
Oui,
surtout
le socioculturel.
Du côté théâtre.
Oui, ouais. Le socioculturel, oui, dans la famille, c'est présent depuis très longtemps. J'aimerais juste rectifier une toute petite chose.
Ouais.
Le côté artistique est venu par mes deux parents.
D'accord.
Parce que mon père, autant il m'a donné, par rapport à la musique, le côté technique et tout ça, c'est lui qui m'a donné envie de jouer de la guitare, parce que je voulais jouer de la guitare comme mon père. Mais ma mère, elle adorait aussi tout ce qui était lecture, cinéma, la peinture, etc. Et elle était toujours très... très curieuse. Je dirais que d'un point de vue technique, pratique, c'était mon père, et d'un point de vue plus, je dirais, intellectuel, c'était peut-être plus ma mère qui me donnait envie. Donc elle m'enregistrait plein de films au cinéma de minuit, avec le magnétoscope à l'époque, ben oui, années 80 oblige. Elle enregistrait ça au magnétoscope et moi je l'ai regardé en journée. Donc j'ai regardé tous les Chaplin, donc Alfred Hitchcock. Enfin, ma mère aimait beaucoup ça et elle voulait qu'on puisse avoir accès à cette culture. Elle disait, regardez les films, regardez les documentaires, lisez, voilà. Mais sans nous forcer. Donc voilà, pardon.
Donc nourri par le papa.
Et la maman.
Et aussi beaucoup, du coup, la maman. Alors, vous commencez la guitare... à 17 ans, ça c'est tardif, hein. Pourquoi 17 ans seulement? Qu'est-ce qui a créé le...
J'avais essayé à 8 ans, je voulais que mon père m'apprenne, mais il était tellement occupé avec toutes ses activités qu'il n'avait pas trop le temps, donc je suis passé au conservatoire, mais pour faire conservatoire, il fallait faire 2 ans de solfège avant de jouer. Et les études, et moi, moins j'en fais, mieux je me porte, voilà, et donc c'était un peu pénible à faire, et j'avais pas envie de jouer ça, je voulais pas jouer le répertoire classique, donc j'ai tout abandonné. Et à 17 ans, c'est un peu un pari, parce qu'il y avait le festival de la guitare qui a toujours lieu aujourd'hui, qui réunit chaque année, pendant 3-4 jours, plusieurs guitaristes qui viennent de France, mais également d'Europe et du monde entier. C'est un rassemblement de guitaristes, et j'y participais depuis les années 80, enfin début 90, et j'ai eu un moment où on me disait, mais toi, t'as pas envie de jouer de la guitare, gna gna gna, tout ça. Et j'ai dit, bon, l'année prochaine, quand tu reviens, je te jouerai un morceau. C'était à mes 17 ans, et ça m'a tellement bien plu que je m'y suis mis beaucoup. Je jouais jusqu'à 8 heures par jour en week-end, parce que quand j'avais école, je pouvais jouer que 3 heures, 4 heures.
Ah, voilà. Même si 8 heures par jour, c'est quand même presque de l'acharnement. Là.
C'est l'acharnement, mais c'est le minimum, je crois, quand on commence, surtout quand on commence tard, parce que normalement, je ne peux pas être virtuose, mais ceux qui ont commencé très tôt, à 4-5 ans, ils en jouent 8 à 10 heures, 11 heures par jour. Quoi. J'en suis loin quand même encore de ça.
Ouais. Même si vous apprenez très vite, puisque à 19 ans seulement, donc 2 ans après le début de votre apprentissage...
J'ai pas réussi à tenir mon pari.
Vous êtes déjà sur scène.
Voilà. En octobre 95, je fais mon premier concert. Et je joue 3 morceaux, justement, lors de ce festival, devant plein de guitaristes comme ça présents, sans peur et sans reproche, je dirais, un petit peu insouciant comme on peut l'être à cet âge-là, mais c'est bien. Et ensuite, j'ai enchaîné avec quelques spectacles, avec mon père notamment, mais aussi en solo, parfois en duo. Et puis, au parallèle de mes études, je donnais quelques cours, quelques petits stages, je faisais quelques boeufs, voilà. Très vite, parce que je voulais jouer très vite. Je voulais pas rester que dans ma chambre, je voulais vite être sur scène. Je voulais vite être sur scène.
Vite être sur scène.
Ouais.
Alors, parallèlement, vous étiez également, vous aviez des petits boulots à Issoudun. Vous avez été projectionniste.
Oui, c'était parce que comme je m'ennuyais, parce qu'il faut savoir que le premier souvenir que j'ai de moi en France, c'est l'ennui. Et c'est l'ennui chez moi, quelque chose, c'est un moteur qui explique beaucoup de choses. Et comme je m'ennuie beaucoup, il faut que je m'occupe et que j'en fasse beaucoup. Et comme j'avais beaucoup de temps libre après l'école, quand je jouais pas de la guitare et que je voulais aller au cinéma gratuitement, le meilleur moyen, c'était d'y travailler bénévolement. Et donc, on m'a proposé d'être projectionniste, comme j'aimais bien le contact avec la pellicule. C'était un cinéma privé. J'ai participé de manière bénévole. Je vendais des bonbons aussi, à l'entracte, parce que, comme à l'ancien temps, bonbons, chocolat, voilà. C'était assez rigolo. Et j'avais mes places gratuites pour le cinéma. Donc, je voyais tous les films qui passaient au cinéma. J'étais heureux.
Ça vous permettait aussi de garder, un pied dans cet art.
Ouais.
Vous avez, on l'a vu à l'instant, avec, un petit... déclic comme ça sur le commencement de la guitare, donc à 17 ans, ça vous est venu comme ça, d'un coup, et puis vous vous acharnez, vous allez dessus directement, et ça vous est aussi arrivé pendant vos études. Vous êtes allé à Tours pour des études d'histoire de l'art, et vous êtes allé jusqu'à la maîtrise, et là, patatras, du jour au lendemain, vous décidez d'arrêter.
Oui, j'ai fait ma maîtrise. Normalement, à l'époque, c'était en un an.
Ouais.
Moi, j'ai mis 2 ans parce que je travaillais un peu à côté et puis parce que je faisais beaucoup de recherches. C'était un sujet qui me passionnait. J'ai adoré la fac. Autant j'ai détesté le lycée, mais j'ai adoré la fac. Et je faisais énormément de recherches. Ça me plaisait. Donc, j'ai pris mon temps pour faire les recherches. Mais j'ai vraiment pris mon temps. Et puis, comme je suis arrivé à Paris pour faire mes recherches, je profitais de la vie parisienne, des cinémas, des concerts, du théâtre. Quand même, je pouvais prendre 2 ans. J'ai pris mes 2 ans. Et j'ai commencé à le rédiger. Il était quasiment fini d'être rédigé. J'ai validé tous mes cours à côté. J'ai validé le stage, etc. Et au moment de la rédaction du mémoire, j'y arrivais pas. Je m'y suis forcé à l'écrire. Et je me suis arrêté, quoi, les 10, 20 pages avant la fin. J'ai arrêté tout d'un coup et j'ai refusé de le finir et j'ai refusé d'aller le soutenir. Et je n'ai dit mot à personne à la fac. Voilà.
Et du coup, pourquoi ? Est-ce qu'il y avait... Est-ce
je ne l'ai pas compris sur le coup, c'était un sentiment viscéral. J'avais l'impression que si je le faisais, je sais pas, je me trahissais, que j'allais mourir, que je me compromettais. Je ne sais pas, c'était cette espèce viscérale, il fallait que je dise non, avec la compréhension totale de mes proches, de ma famille qui m'ont dit « mais c'est fini, t'as fini, pourquoi tu le rends pas ? Au moins fais-le et tu passeras à autre chose ». Et je crois que si je l'avais rendu, je crois que ça, dans ma tête, dans mon parcours, ça m'aurait dit « tu approuves ça, tu corrobores ça », alors que c'était pas fondamentalement moi.
Pourquoi vous avez choisi de faire histoire de l'art, alors justement ? Parce que vous étiez un élève, vous aviez des facilités. Voilà, ouais. Et vous fallait 10 pour passer... Vous avez compris rapidement que
voilà.
Vous fallait 10 pour passer à l'échelon supérieur.
Ah oui, c'est ça. Il fallait 10, point barre. Alors, si un jour je me tapais un 0, il fallait que je me tape un 18 ou un 20 la fois d'après, il fallait travailler un peu. Mais grosso modo, il fallait avoir 10 et ça me suffisait. Donc, n'étant pas un élève très brillant, je ne pouvais pas me promettre à des super études techniques ou ingénieurs ou quoi que ce soit, mais c'est pas grave. Et comme j'avais envie de faire de l'artistique, mais ne sachant pas vraiment quoi, parce que je faisais de la guitare, j'aimais bien le théâtre, mais j'aimais bien le cinéma, enfin bon, etc. Et j'ai fait quelques demandes, ne sachant trop où aller. Et j'avais le choix entre Orléans et Tours, et je suis allé à Tours. Et à Tours, il y avait... parce que je trouvais bien Tours, voilà. Et je me suis dit, il y a histoire de l'art et d'archéologie, peinture et architecture. Je dis, je n'y connais rien, j'y vais. Et au bout d'un mois, j'ai adoré comprendre enfin la peinture et l'architecture. Ce qui était pour moi que du chinois, qui était un truc complètement étranger, d'un seul coup j'ai compris que ça me parlait de moi, ça me parlait le cinéma, ça m'expliquait le monde des idées, enfin d'un seul coup ça donnait sens à beaucoup de choses et j'ai adoré.
Alors vous avez arrêté en 2000.
Oui.
Justement, juste avant de... C'est du suspense, hein. Juste avant de la soutenance, hop, vous décidez d'arrêter. Alors, on va quand même préciser que parallèlement, pendant vos études, vous avez toujours gardé ces activités artistiques.
Oui,
vous
faisiez de la guitare.
Vous faisiez de la guitare, vous preniez des cours de théâtre.
Oui.
Alors donc, en 2000, vous arrêtez et puis vous enchaînez quelques petits boulots passionnants. C'est ironique. Hein.
Oui.
Des boulots passionnants. Pendant une année, comme pour vous tester un petit peu, c'est ça ?
Oui, j'avais envie, en fait, comme j'avais fait des études, j'ai fait le bac littéraire, après j'allais en fac, j'allais en maîtrise, normalement j'aurais dû faire un DEA, une thèse, enfin bon, ce vers quoi j'aurais pu me destiner. Et quelque part je me disais, mais je n'ai encore jamais vraiment travaillé, j'ai encore vraiment jamais rien fait, est-ce que je peux vivre tout seul ? C'est un petit peu rassurant tout ça, donc je me suis dit, bon, est-ce que je peux vraiment vivre dans la galère ? Et quelque part, j'ai dû me mettre dedans, ouais. Mais je sais pas, j'aime bien, voilà, ça m'a plu, et j'ai fait vraiment des petits boulots, alors c'était passionnant la première heure, et c'était très pénible, les heures qui suivaient.
Alors, en fin 2001, vous entrez à France Télévisions ?
Oui.
Vous entrez à quel poste ?
Comme assistant discothécaire, on va dire, c'est-à-dire que je devais m'occuper de la base de données des disques, donc pour les reportages, voilà, parce que France Télévisions recevait des... Enfin, je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui, ils recevaient des disques vinyles à l'époque, mais après beaucoup de CD, et il fallait les numériser dans des bases de données pour faire des recherches, tout ça, vu qu'il y en avait plusieurs milliers, etc. Et comme ça, quand un journaliste ou un producteur venait, je voudrais telle musique, on l'a, on l'a pas, où est-ce que c'est rangé, voilà. Et puis au bout de 3 mois à peu près...
On a remarqué vos qualités.
Hein, oui, voilà, musicales. Parce que comme les journalistes passaient, les producteurs passaient, ils posaient des questions, puis ils sentaient que c'est que ça m'intéressait. Et puis surtout, je regardais la télé. Parce que dans le milieu de la télé, beaucoup de gens ne regardent pas la télé ou n'ont même pas la télé. Et moi, je la regarde beaucoup, la télé. Et je connaissais, donc je comprenais à peu près les univers qu'ils pouvaient rechercher. Donc ça me parlait. C'est-à-dire que les peu de connaissances que j'avais en musique, parce que j'estime que j'avais peu de connaissances avant de rentrer dans ce service, j'arrivais à bien les exploiter. Et alors là, pendant un an, mais j'ai écouté énormément de musique, j'ai appris, ça m'a ouvert sur les musiques du monde que je connaissais peu, des musiques électroniques, les musiques baroques, les musiques anciennes. J'ai eu une soif, une boulimie de musique, j'en ai écouté énormément. Je faisais que ma vie, je faisais que ça. Je faisais qu'écouter de la musique en permanence, et dans tous les styles. J'ai vraiment adoré.
En revanche, vous arrêtez complètement la musique entre 2002 et 2007.
Comme j'en écoutais beaucoup, c'est là que j'ai pris conscience que ce que je jouais en guitare, même si ça plaisait, si ça pouvait plaire, que c'était pas mal, ça me correspondait pas. Et d'un seul coup, j'ai compris en écoutant la musique de tous les autres que ça me ressemblait pas, en fait, ce que je jouais. Ça me plaisait pas, ce n'était pas moi.
Vous aviez l'impression de jouer que pour les autres, sans vous faire
forcément
plaisir.
Oui, c'est-à-dire de jouer comme les autres pensent que je devais le jouer, la façon dont je vais le jouer, même si j'aimais les morceaux ou les thèmes, c'était pas moi. La façon dont je les jouais, c'était pas moi. Et heureusement, pendant cette année 2002, j'ai écouté des tas de musique du monde entier, dans tous les styles et dans tous les genres. Je me suis dit, mais ouais, il faut vraiment que je cherche quelque chose. Donc une boulimie de musique, juste à écouter.
Alors pour quelqu'un qui a commencé à jouer à 17 ans, oui. Qui s'est acharné, qui a progressé du coup, qui a acquis une certaine technique, de 2002 à 2007, rien, vous touchez plus votre guitare.
Quasiment plus, je jouais peut-être un quart d'heure ou 20 minutes par an. Mais je sais pas, ça me correspondait plus quand je la prenais, elle ne sonnait pas. C'est-à-dire je n'étais pas du tout en harmonie avec elle, ça m'énervait, ça m'envoyait une image de moi qui me plaisait pas. Ça me plaisait pas ce que ça me renvoyait. C'était moi intérieurement. Bon, c'est que la guitare n'a rien à voir là-dedans. Ouais. Mais c'était moi, ça, je sais pas. Ça me plaisait pas ce que je jouais. Je m'y reconnaissais pas.
Et pas de sentiment de manque.
Si, de frustration.
De frustration
plus. Pourquoi de me dire. Mais en même temps, ça me manquait pas. Je pouvais passer. Et puis parce que j'ai mis à profit les 5 années pendant lesquelles j'ai pas joué, j'ai cherché autre chose. Voilà.
Alors, évidemment, comme. Les auditeurs, les auditrices l'ont peut-être déjà remarqué, vous, souvent, vous allez d'un côté à l'autre, c'est souvent l'extrême, comme on l'a vu dans vos débuts à la guitare, comme on l'a vu pour l'arrêt de la maîtrise. Vous arrêtez finalement France Télévisions.
Oui.
C'est pourtant un poste assez... ça vous plaît, c'est plutôt assez sympathique, vous écoutez de la musique, c'est un domaine dans lequel vous...
On n'est pas trop mal payé.
On n'est pas trop mal payé, et puis vous aimez ça. Et puis du jour au lendemain aussi, paf, vous arrêtez.
Oui.
L'explication, peut-être.
Bon, elle est multiple parce que il y a eu des changements d'équipe, il y avait un petit peu moins de travail, il y avait aussi un ras-le-bol complet de ma part de la vie que je menais, c'est-à-dire que après l'arrêt de mes études en 2000, pendant 2-3 ans, c'est monté, c'est-à-dire que la cocotte minute, elle est montée, et je supportais plus ma vie, je la supportais plus, et j'ai profité qu'il y avait un petit peu de réduction du temps de travail pour partir et quitter Paris, mettre beaucoup de distance, et je suis parti presque sans rien dire de France Télévision, et ça m'a pas manqué.
Alors encore une fois, vous partez sans rien dire.
Presque sans rien dire, mais à mes chefs, entre guillemets, je leur ai dit je suis pas là, mais sans leur expliquer pourquoi. Parce qu'ils comprenaient pas, et parce qu'on me demandait aussi, pour faire ce métier-là, à un moment, de ne me consacrer qu'à ça. Et or, parallèlement, même quand je travaillais à France Télévisions, mais j'étais animateur socioculturel, je faisais des petites missions en intérim, parce que j'adore faire toujours plein de choses différentes, j'aime pas que me spécialiser. Et là, on me demandait de ne faire que ça. Et ça, quelque part... Cette pression, je l'ai refusée. Puis ça m'arrangeait parce que j'avais envie de partir. Enfin voilà, c'est un mélange de plusieurs options et je suis parti.
Alors des fois, il y a des petites anecdotes assez amusantes puisque vous êtes retombé par hasard sur votre ancien directeur de recherche, donc
oui,
de fac, à qui vous n'aviez pas dit que vous
que j'arrêtais. Ouais. Oui. Oui, c'était en 2000. Je travaillais dans un relais presse à la gare Montparnasse. Et voilà, c'était un matin et je vois passer mon directeur de recherche devant moi avec son journal pour payer. Et là, on est resté quoi, un petit peu tout, on est resté là sans trop quoi dire. Et je crois qu'il a compris que j'avais fait autre chose.
il a dû dire ah bah tiens, c'était mon élève ça.
Oui, c'est mon élève. Je crois plus qu'il m'aimait bien. Je crois qu'il aimait bien la façon dont je faisais mes recherches. Enfin, il me semble. Ou alors je me suis complètement leurré. Mais je crois qu'il aimait bien la façon de travailler. Mais j'ai arrêté d'un coup. Un peu sentiment de malaise quand même, hein, sur le coup, je me suis dit, mince, j'aurais peut-être dû dire, et je sais pas, je suis pas arrivé à dire un mot, lui non plus. Et... J'ai jamais, comme j'étais incapable de trouver une raison rationnelle à ce moment-là pour dire j'arrêtais, c'est difficile de dire j'arrête parce que je ne le sens pas. C'est une raison qui passe très peu, ça, généralement.
Voilà, c'est ainsi que se termine la première partie du portrait consacré à Arnaud Delpoux. Une première partie que vous pouvez dès à présent retrouver sur le podcast de la radio marmitefm.canalblog.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite du portrait. Merci à tous.
C'était Portrait. Marmite FM vous a proposé Portrait, des interviews menées par Nouradine Haye.